Il est donc l'heure de retrouver l'émission Écriture dessinée en compagnie de Bruno Canard. Bonjour Bruno.
Bonjour Fabien. Alors aujourd'hui, l'entretien se fera avec Kitry Simon, qui est une autrice jeunesse et qui vient d'éditer son premier roman graphique. C'est un récit autobiographique mis en image par Francesca Vartuli. Ce que je suis de Roquia questionne notre humanité dans la réalité du quotidien, de l'accueil des migrants, au-delà de nos convictions et de nos certitudes. Cette histoire éclairante conserve intacte notre volonté d'accueil et nous débarrasse de nos illusions. Nous serons avec Kitry Simon pour qu'elle nous donne des nouvelles de Roquia et qu'elle nous raconte l'écriture de ce roman graphique. À tout de suite. Écriture dessinée. Bonjour à toutes et à tous. Fabien est en régie, les invités musicaux. La programmation musicale a été choisie donc par Kitry Simon et nous allons écouter Tiken Jack Fakoly, Roca Traoré et Geoffrey Orejoma. Une brève, jeudi prochain, pas ce soir, mais en 8, comme on dit. Jeudi prochain à 18h, il y aura le vernissage de l'exposition consacrée à trois dessinateurs. Il s'agit de Matt Conture, de Mordicus, mais pour sa partie dessin, et de Rico. Rico et Matt Conture ont œuvré pour cet ouvrage collectif basé sur une sorte d'exploration de contraintes de feuilles avec des taches et qui s'appelle Pareidolie Comic Band. Donc ça se passe de l'autre côté qui est le trois tiers lieu associatif, parce que c'est un lieu entier, donc c'est pas un tiers lieu, c'est un trois tiers lieu. Et donc dans ce trois tiers lieu, eh bien, qui se trouve en face du Café du Siècle, donc de l'autre côté, le Café du Siècle est de l'autre côté, de l'autre côté. Mais voilà, donc on se retrouve le jeudi 21 mars à 18h à de l'autre côté. Et puis je consacrerai la chronique de demain, vendredi, au Grand Prix du meilleur album de l'année, au Fauve du meilleur album de l'année du Festival d'Angoulême. Il s'agit de Monica de Daniel Cloves. À tout de suite. Merci les Shadok. Je voudrais commencer, poursuivre cette émission avec Mauvaise Herbe, le livre de Kumsuk Jandri Kim, donc c'est une réédition. C'est un livre qui a été traduit dans de très nombreuses langues, plus d'une trentaine. Et ce livre est basé sur le témoignage d'une esclave sexuelle durant la guerre du Pacifique. Alors, c'est un livre d'ampleur et voilà quelle est sa trame, quelle est la situation sur laquelle a œuvré Kensuke Jandri Kim. En 1943, durant la guerre du Pacifique, la Corée est sous l'occupation du Japon. Sun, une jeune fille de 16 ans, est vendue par ses parents adoptifs comme esclave sexuelle à l'armée japonaise basée en Chine. Après avoir vécu 60 ans loin de son pays, Sun revient sur sa terre natale. Le moment de raconter son histoire bouleversante est venu. Alors, Kumsuk Jandri Kim est une coréenne qui a fait déjà plusieurs romans graphiques et qui a développé aussi bien l'écriture du manga comme elle était traditionnellement faite en Corée, donc les manhwa, puisque c'est le nom de cette partie des mangas qui se déroule en Corée. Les mangas, ben, c'est japonais, et les manhwa, c'est chinois. Et donc, elle a mixé cette écriture de manhwa avec une écriture plus européenne de la bande dessinée, comme elle s'est développée tout au long du XXe siècle. Alors, ce qui est important dans ce projet narratif de Kum Suk Jandri Kim, c'est d'une part l'ampleur, c'est un récit de près de 500 pages qui va vraiment revenir précisément à partir donc de ce témoignage de Lee Ok-soon sur ces femmes de réconfort, comme elles ont été appelées, et qui au Japon n'est toujours pas, ils refusent de reconnaître leur responsabilité dans cette situation qui s'est déroulée pendant la Seconde Guerre mondiale. Alors, il y a donc des femmes qui ont été condamnées à la prostitution, à la violence, à l'exil, à l'opprobre. Et c'est ce dont va témoigner Lee Ok-soon. Il y a en plus une sorte d'ostracisation qui s'est poursuivie au moment du retour en Corée où on refusait de les considérer, d'avoir une quelconque estime pour elles. Et donc ça a été vraiment une situation comme elles ont été vécues dans différentes guerres, mais l'importance de ce projet, les mauvaises herbes, c'est vraiment de le détailler, mais avec la partie dessin que va apporter Kum Suk Jandri Kim. Alors, parlons un peu plus précisément de ce développement, de la façon dont on rentre dans le récit. Donc il y a le principe de l'auteur qui va interviewer, qui va recueillir ce témoignage. Et donc, Lee Ok-soon va donc parler très régulièrement à la première personne. On va la voir très très facilement en scène, aussi bien lorsqu'elle est à l'époque du témoignage, donc beaucoup plus âgée, et au moment de la Seconde Guerre mondiale, où commence ce cauchemar qui va durer pour elle des années et des années. De cette écriture du manhwa, Kum Suk Jandri Kim va garder une façon de raconter avec une vivacité, avec une simplicité. On a un format qui est genre format roman, avec un découpage en trois bandes, cette régularité qui facilite grandement la lecture, une façon de styliser, d'être très facilement et rapidement dans l'efficacité du trait, de la représentation. C'est direct, efficace, simple, et ça permet vraiment de porter le récit sans avoir des implications réalistes qui n'apporteraient finalement rien. À l'opposé de ça même, Kum Suk Jandri Kim va faire le lien avec cette histoire du dessin, cette histoire de l'estampe qu'il y a non seulement au Japon, mais aussi bien en Corée qu'en Chine. Et donc, son dessin va se charger de cette intensité, va prendre une puissance expressionniste qui va permettre à chaque représentation, aussi bien de l'armée, des différentes situations rencontrées, des décors, de visages, le dessin va être chargé d'une intensité, d'une émotion par la puissance du trait, par la qualité des noirs, par cette façon très intense de représenter, de dessiner. Il y a des pages qui sont splendides, qui sont remarquables et qui donnent une intensité immédiate à la lecture. On peut avoir des scènes qui vont être dans l'esprit du manois et puis avoir tout ce traitement du contexte, du dessin, ces images qui vont donner des vues de paysages, mais qui vont lui apporter cette intensité d'un trait puissant, expressionniste, avec un noir remarquable. Résultat, on plonge, on lit, on est vraiment dans ce moment historique qui a des répercussions importantes et Kim Suk Jandri Kim insiste là-dessus. Il y a un révisionnisme au Japon qui fait que on ne veut pas reconnaître et on ne veut pas parler de ce moment-là. Et c'est important de revenir, que ça reste dans les mémoires pour que enfin il y ait cette simple reconnaissance qui serait effectivement la moindre des choses. Un livre étonnant et qui marque en tout cas cette culture commune qui est en train de se créer avec ce traitement de la bande dessinée, de l'écriture dessinée de Kim Suk Jandri Kim, qui est capable aussi bien de convier le manois que l'univers pictural de l'Asie et de l'Extrême-Orient, et puis une narration en bande dessinée plus européenne. Mauvaise herbe, donc de Kim Suk Jandri Kim, est publié par les éditions Futuropolis et les 488 pages de ce livre en noir et blanc est au prix de 30 euros. Eh oui, les moustiques, ouf, j'en frémis. Poursuivons avec un journal de guerre, celui de Nora Krug, qui s'intitule donc Journal de guerre d'Ukraine, deux témoignages d'Ukraine et de Russie. Donc cette guerre-là, elle est contemporaine et Nora Krug s'est attachée à raconter cette guerre par ceux qui la vivent. J'avais présenté, et Igor l'avait fait également, donc avait expliqué son journal d'une invasion. Donc lui est originaire, a une partie de sa famille qui est originaire d'Ukraine, et donc il avait évoqué avec tous les témoignage qu'il recevait ce début de la guerre en Ukraine. Et donc là, avec Nora Krug, on a un projet narratif qui est assez proche, mais qui finalement, dans la forme, et c'est la grande force de la bande dessinée, va prendre une présentation, une narration très différente. Alors en février donc 2022, Kiev en Ukraine, K est journaliste de terrain et activiste. Elle documente la déferlante militaire et la mort qui s'abattent autour d'elle. À Saint-Pétersbourg, D est artiste. Il n'est pas dupe de la propagande russe et désapprouve la politique d'agression de ce gouvernement. Mais que faire ? Tous deux cherchent à protéger leur famille et chacun passe de la peur à la colère, de l'impuissance à la révolte. Chaque semaine, pendant un an, ces deux correspondants vont relater à Nora Krug leur quotidien en temps de guerre et lui confient leurs réflexions les plus intimes. Les pièces de leur récit s'assemblent pour dresser un portrait subjectif, qui reste subjectif, de la guerre. C'est vraiment un projet narratif qui fait que, par les simples partis pris de départ, on a un livre qui va être très différent et qui peut apporter vraiment d'autres angles de vue, d'autres informations, d'autres émotions. Alors, quelques mots de l'auteur avant de détailler ce projet narratif, puisque Nora Krug est une autrice qui vit à New York et qui va publier des récits graphiques dans le New York Times, dans le Guardian ou dans le monde diplomatique. Elle expose dans le monde entier. Elle fait des films vidéo d'animation. Et donc, elle est complètement immergée dans ce type de projet qui associe récits et dessins. Alors, comment se présente ce journal de guerre? Eh bien, on va avoir, après une présentation de la mise en place, un découpage très régulier, très précis. La page de gauche est pour K, puisqu'on ne saura rien de plus de leur prénom. Donc on va avoir sur un fond d'un ocre très, très léger quelques images qui sont présentées sous forme de cartouches centrées sur l'image et entre ou accompagnées le texte qui est calligraphié à la main et qui est chaque ligne étant dans une cartouche. Et lorsque le texte fait 3-4 pages, eh bien, chaque partie, chaque bande de texte est juxtaposée à la suivante. Pour la partie droite, eh bien c'est D qui va avoir donc son récit qui va se déployer sur cette page dont le fond est un vert véronèse assez pâle. Donc au niveau de la lecture, cette régularité est très importante puisque à chaque fois on sait qui parle, on sait quelle est la semaine, puisque là on a une petite cartouche qui indique depuis combien de temps la guerre a été déclarée. Et donc, dans cette mise en forme-là, on peut développer, c'est ce que fait Nora Krug, une précision du texte où on va être vraiment dans l'accompagnement, dans le quotidien de aussi bien K que D. Les préoccupations sont très différentes. K a de la famille au Danemark, elle va emmener ses enfants et elle va revenir parce qu'elle est journaliste de guerre sur le terrain en Ukraine. D, lui, est artiste, il vit à Saint-Pétersbourg, il est attaché à Saint-Pétersbourg et il est très critique vis-à-vis du régime et il va effectivement falloir trouver une forme de pour rester debout, pour ne pas que les enfants à l'école subissent la propagande russe qui est continuelle. Et à chaque fois, les préoccupations des uns et des autres qui se déploient sur un an sont étonnantes parce que ce n'est pas le ton ou ce n'est pas ce que proposent les informations qui sont que des fragments qui vont se juxtaposer d'un jour sur l'autre. Et là, on a vraiment, avec cette année qui se déploie, une autre dimension qui se met en place. Les dessins de Nora Krug sont faits avec un dessin au trait précis, posé, avec un style personnel. Ce n'est pas un simple dessin réaliste, c'est immédiatement reconnaissable. Il y a aucune espèce de volonté de traduire les combats ou ces résultats par le dessin, mais c'est vraiment des sortes de dessins d'ambiance qui sont en complément, en vis-à-vis du texte de chacun des témoins. Un concept pleinement efficace, un projet narratif pleinement réussi, et les 128 pages donc de ce récit de Nora Krug sont au prix de 22 euros. C'est publié par Gallimard Bande Dessinée. C'est traduit de l'anglais par Marc Lesage. Et puis, bah, nous démarrons avec Takeja Facoli.
Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole l'argent de mon pays, ça vole. Il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Il s'envole l'argent de mon pays, il s'envole. Construit de nos mers, pour extraire de nos roches. Richesse prend un chemin qui ne mène pas à nos poches. Nos terres sont riches, nos bras sont forts. Mais d'autres profitent du trésor, nous laissant dans la pauvreté. Ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole l'argent de mon pays, ça vole. Il s'envole, il s'envole, il s'envole, il s'envole. Il s'envole l'argent de mon pays, il s'envole. Combien de fortunes cachées, construites avec nos sueurs. Qui donc encaisse les bénéfices du travail de nos fils. Nous ne goûtons jamais les fruits de notre labeur. L'Afrique a de la valeur, plus puissant devient les voleurs. Et ça vole, ça vole, ça vole, ça vole. Ça vole l'argent de mon pays, ça vole. Il s'en vole, il s'en vole, il s'en vole.
Dans sa postface, qui dirige Simon, scénariste de Ce que je sais de Rokia, rappelle l'humanité des programmes d'accueil des réfugiés. Les accueillir, c'est comme accueillir un ami, et ça, on sait faire. Le récit met en scène les réalités du quotidien. Face à l'étrangère, au cœur de mon intimité, j'ai été bien démuni. Sa vulnérabilité a mis à nu la mienne. Attente, certitude sont autant d'illusions dont il faut se délester. L'accueil de Rokia est une histoire de famille. Nous sommes aux côtés de Kitsuri et de sa fille Lou, encore à la maison de Julien, son compagnon, et de Rokia, jeune femme venue du Libéria, arrivée en Europe en passant par la Libye. Elle appelle Marion, qui est le nom du personnage qui accueille, équivalent de Kitsuri, maman. Autrice jeunesse, Kitsuri Simon choisit le roman graphique pour narrer la relation profondément humaine entre Rokia, Kitsuri et les siens. La bande dessinée apporte la force de ces dialogues, l'intensité de chaque moment partagé, la profondeur des acteurs et actrices de cet accueil. Le dessin de Francesca Vartoli, avec la douceur de l'aquarelle, la finesse du tracé intégrant de l'incertitude, l'attention portée au regard plaçant le lecteur au plus près du récit. Ce témoignage bouscule notre tranquillité citoyenne. Nous nous approprions cette expérience de l'accueil pour apercevoir ce qui se vit juste en dessous de la ligne de flottaison. Nous sommes avec Kitsuri Simon pour qu'elle précise les processus de son écriture. Bonjour Kitsuri Simon.
Bonjour Bruno.
Est-ce que je prononce bien votre prénom ?
Oui, on peut le prononcer comme on le prononce souvent dans le sud-ouest, en prononçant chaque syllabe, Kittery, ou de manière plus rapide, Kittery, comme vous le souhaitez.
Bon, ben on verra, ça va. Alors, quelles nouvelles pouvez-vous nous donner de Rokia aujourd'hui ?
Rokia aujourd'hui vit dans la banlieue de Hambourg, en Allemagne, avec son fiancé. Elle prend le temps de se former, d'apprendre l'allemand et puis de vivre tranquillement sa vie de couple.
Alors, qu'est-ce qui a fait, Kittery Simon, que vous avez envie, vous avez eu envie de raconter cet accueil ?
Ah, je crois que j'ai eu envie de le raconter parce que c'était tellement riche d'un point de vue émotionnel. Donc peut-être pour relire cette histoire, peut-être pour mieux la comprendre, et ça je ne sais pas si pour moi-même l'objectif aura été atteint, peut-être pour apaiser quelque chose. Voilà, j'ai eu besoin de faire une relecture et de la partager, et le combo des deux, relecture et partage, a donné l'envie de l'écrire. Alors de l'écrire comme l'autrice que je suis, j'ai envie de dire que je l'étais, puisque j'étais plutôt sur le roman, mais comme il s'agit d'une histoire où le silence a beaucoup de place, où la difficulté de la communication en a aussi beaucoup, et donc elle est relayée par le langage extraverbal, c'est-à-dire le langage corporel, les expressions du visage, la bande dessinée m'est apparue tout naturellement, et pour la première fois dans ma trajectoire d'autrice, comme le vecteur le plus approprié.
Alors, se lancer dans un roman graphique avec un récit aussi personnel, quelles précautions on prend ? Comment ça se passe dans les moments d'écriture des dialogues, par exemple ?
Ouh là là, alors d'abord, mon intention première était de me cacher donc déjà derrière le changement de nom et surtout de ne pas forcément dire, et en premier lieu à l'éditeur, qu'il s'agissait d'un récit autobiographique. Et c'est ma rencontre avec Sébastien Glédic de chez Futuropolis qui a fait que j'ai été amenée à, j'ai envie de dire, à avouer ça, puisque je me mets quand même bien à nu dans ce récit. En fait, je ne ressors pas forcément glorifiée. Je montre mes bonnes intentions, mais aussi mes doutes, mes peurs, mes renoncements parfois, mes bouderies aussi, mes incompréhensions. Et donc c'est Sébastien, l'éditeur, qui m'a dit que peut-être que ce récit gagnerait en force en osant dire qu'il s'agissait d'un témoignage.
Et le résultat a été concluant pour vous ?
Le résultat, c'est-à-dire le fait de...
Le fait d'avoir accepté de dire que c'était un témoignage, comme oui. L'exprime bien la postface.
Oui, je crois que d'être dans la vérité, et c'est dans la vérité en fait du fait que ce soit autobiographique, ça simplifie ensuite le fait de communiquer à d'autres, d'en parler, de pouvoir mieux partager comme on est en train de le faire en fait.
Alors, souvent, lorsqu'il y a un récit autobiographique qui se déroule sur quelques mois, est-ce que vous avez pris des notes ? Est-ce que vous pensiez déjà, ou assez rapidement, à transformer en récit ce que vous étiez en train de vivre ? Ou comment s'est fait le passage entre ce qui est vécu et ce qui va être écrit ?
Alors ça, j'ai presque envie de parler d'accouchement, parce que je crois qu'au début, je me l'interdisais, parce que j'ai pris le prisme de l'accueillante, donc de ma vision. Mais de fait, je parle quand même d'une relation, donc aussi de quelqu'un d'autre, et d'une part de quelque part de son intimité. Et ce n'est pas parce qu'elle avait accepté de vivre sous notre toit que pour autant, elle m'appartenait, ou cette tranche de vie m'appartenait. Et j'ai eu beaucoup de scrupules à faire ça. Oui, beaucoup de scrupules, et je rêvais aussi peur qu'on puisse penser que j'avais accepté cet accueil pour m'en servir, pour en faire quelque chose. Voilà, donc pendant des mois, les premiers mois, j'ai pas du tout pensé. Ensuite, je crois que l'envie s'est mise à me titiller, mais je me le suis interdit, jusqu'au jour où à la table familiale, qui est souvent représentée dans l'album, sous le... un seul faisceau lumineux d'une espèce de lampe d'architecte qui était au-dessus de cette table. Dans ce même faisceau lumineux, dans la nuit de la maison, il n'y avait que cet espace qui était éclairé. S'est mis à travailler une de mes filles qui préparait un examen de droit et Rokia qui, elle, s'appliquait comme un enfant de CP à faire des lignes d'une seule lettre, du F comme ça. Et toutes les deux avec le même sérieux, la même implication. Et elles avaient le même âge et je me suis dit, mais la seule chose qui les sépare, en fait, c'est la chance d'une éducation, d'une scolarité offerte par l'état de droit dans lequel nous vivons. Et dont Rokia n'a pas pu bénéficier. Et là, cette image était tellement forte. Moi, j'étais dans le noir, je les observais dans le noir, et cette même, avec ce même sérieux dans ce même faisceau, et c'était tellement graphique, cette vision, que là, et bien, j'ai envie de reprendre la scène de l'accouchement. Là, la poussée était si forte que je me suis dit, allez, hop, c'est parti, je le fais. Et à partir de là, je me suis mis doucement, mais sûrement, à prendre des notes.
Par rapport à Rokia, qu'est-ce que ça change ? Est-ce qu'elle a assisté à quelques prises de notes, quelques retours, à la mise en place de pages ? Comment ça s'est passé pendant la création du livre avec elle ?
Non, alors j'étais incapable de prendre le recul nécessaire à cette création pendant l'accueil. Et même pendant les mois qui ont suivi l'accueil. Vous avez vu, il y a de l'incompréhension, il y a de la colère, il y a une forme de retrouvaille, voilà. Et ensuite, Rokia est donc maintenant dans un autre pays européen. La communication ne s'est pas trouvée, subitement améliorée du fait de cette distance. Là aussi, c'est une expérience, qu'un lien puisse exister, demeurer au-delà même d'une communication suivie. Voilà. Mais donc, Rokia n'a pas du tout assisté ni à cette prise de notes, l'essentiel de cette prise de notes aussi ont été faits pendant tout le moment, et c'était une manière de m'auto-soutenir pendant tout le moment où elle s'est retrouvée loin de moi en Italie et où je lui courais après, où j'étais un peu son filet à distance de sécurité. Mais ensuite, tout ce travail a vraiment débuté une fois qu'elle était partie, et ça m'a servi de relecture pour comprendre ce qu'il m'était arrivé, ce qu'il nous était, mais ce qu'il m'était arrivé. Voilà, donc Rokia, j'ai dû lui avouer ce que j'avais fait, finalement, il y a très peu de temps, une fois que l'ouvrage était terminé et dans les tuyaux de la fabrication.
Alors, il y a des moments très forts, comme par exemple celui où elle vous parle enfin d'un parcours, de ce qu'elle a vécu, et puis quelques temps après, de révélations qui contredisaient le premier récit de Rokia. Quelles sont les émotions ? Alors, c'est un peu aussi le sujet du livre, mais qu'est-ce qu'on ressent à ce moment-là profondément ?
Là, je crois que j'ai ressenti des émotions qui, relues a posteriori, me montraient que je n'avais pas du tout la distance nécessaire vis-à-vis de cet accueil, vis-à-vis de cette jeune femme, et vis-à-vis de mes propres attentes de retour, entre guillemets, vis-à-vis de cet accueil. Donc, je me suis sentie trahie, mais avant tout vexée, je pense, mais peut-être plus encore vexée du fait que, alors que je m'étais, comme une posture éthique à laquelle je m'étais accrochée, j'avais dérogé parfois, mais je m'étais accrochée, de ne pas poser de questions et de ne pas avoir besoin de récits pour accueillir. Vous lisiez tout à l'heure, au fond, notre humanité commune me suffisait, c'est très gratifiant d'être raccord avec ses propres valeurs, c'est peut-être ça la récompense de cet accueil, ce qu'on va chercher en accueillant. Mais qu'elle ait eu, ça je le marque dans le livre, et qu'elle ait eu besoin de me servir cette sauce, c'est comme ça que j'ai qualifié à ce moment-là, cette sauce et tout ce récit tellement pathétique, pensant que j'avais besoin de ça pour me mettre en branle, mettre en œuvre l'accueil qui était de fait déjà en mouvement, je crois que j'étais vexée en fait avant tout. Voilà. Mais ça ne parle que de moi et de mes attentes de chevalier servant, la frustrée plus de moi que d'elle finalement.
Guitry Simon, je vous propose une pause musicale. On se retrouve dans quelques minutes et on va écouter votre deuxième choix, Rokia Traoré. À tout de suite.
À tout de suite.
Thank you.
Vous êtes sur Radio Escapade dans l'émission Écriture dessinée. Nous sommes en direct avec Idriss Simon, scénariste de Ce que je sais de Rokia. Idriss Simon, vous avez évoqué donc le moment où s'impose cette idée du roman graphique. Comment s'est fait le choix de la dessinatrice, puisque c'est Francesca Vartuli qui a mis en image ce roman graphique, ça s'est imposé, c'est une rencontre, vous connaissiez déjà quand ça s'est passé?
Ah, Francesca, c'est un vrai cadeau, un coup de cœur et j'ai envie de dire une prise de guerre. Francesca est toute jeune quand je découvre son travail la première fois, elle a 23 ans. Comme pour moi, c'est son premier roman graphique. Et en fait, c'est son projet de fin d'études qui est soumis aux éditions Futuropolis par son professeur d'art, qui lui-même publie chez Futuropolis. Et ce projet d'études n'est pas pris par les éditions Futuropolis, mais ils me le soumettent pour que je voie son travail. Et là, c'est immédiatement le coup de cœur. Et je me dis, mais c'est elle, et j'ai envie de dire personne d'autre. Et le temps qu'on prenne immédiatement contact avec elle, eh bien, elle avait aussi déjà tapé, vu son talent, dans l'œil d'une autre grosse maison d'édition, je ne vais pas la nommer, mais une très grosse maison d'édition française. Et Francesca s'était déjà engagée avec cette maison, donc elle a décliné notre offre. Mais cette autre grande maison, c'était le début du confinement de mémoire, a mis des mois et des mois et des mois à finalement mettre le projet en route, s'engager réellement, signer un contrat. Et donc j'ai mis moi à profit ces mois pour faire une sorte de danse du ventre à cette jeune dessinatrice si talentueuse et également la persuader de s'embarquer dans l'aventure avec moi et les éditions Futuropolis. Et waouh, quel cadeau son talent.
Idriss Simon, quel document fournissez-vous à Francesca au fur et à mesure de la création ou si c'est d'un coup?
Francesca, j'aurais tellement aimé la rencontrer pour de vrai. Pour l'éditeur et pour moi, c'était une évidence qu'elle viendrait à La Rochelle, dans les Pyrénées, s'imprégner des couleurs, des lieux, etc. Et en fait, du fait du confinement, Francesca ne l'a pas souhaité. Et j'ai eu peur. Je me disais, mais comment elle va rendre le ciel rochelais, la densité des couleurs pyrénéennes? Et le miracle s'est fait. Alors je lui ai envoyé, c'est vrai, pas mal de photos à sa demande, parce que finalement, il y avait déjà un univers, l'univers de ma maison qui existait. Donc elle m'a dit que ça l'aidait, que ça, voilà, je ne voulais rien lui imposer. Et pas forcément non plus exposer cette partie de ma vie, mais pour elle, c'était nécessaire, donc banco. Et ensuite, elle s'est merveilleusement naviguée sur le net et trouvé tout ce dont elle a besoin. Voilà.
Comment s'est fait comment visualisez-vous, Idriss Simon, les pages est-ce que au moment de livrer la séquence, vous avez déjà visualisé comment elle pourrait se présenter, ou est-ce que c'est une suite dialoguée et c'est à Francesca Vartuli de faire le reste?
Et non, c'était mon premier scénario, donc je ne savais absolument pas comment faire, donc je l'ai fait comme j'imaginais que ça devait se faire, et donc je l'ai fait peut-être à la manière d'un script de cinéma, c'est-à-dire que J'ai fait planche par planche, case par case, en disant extérieur jour, contre-plongée, premier plan, deuxième plan, attitude des personnages. Et c'est vrai que Francesca aurait pu ne pas trouver sa place et dire « mais je ne suis pas juste une exécutante ». Et moi, j'avais aussi envie de faire un vrai duo et que ce soit son projet. Donc je lui ai fourni quelque chose d'extrêmement complet en la suppliant de faire aussi à sa manière et qu'on puisse discuter autant qu'elle le souhaiterait, donc en anglais, de fait, puisqu'on n'avait pas de langue commune, et qu'elle se l'approprie, et que c'est la, enfin, que si elle voulait bouleverser mes planches, l'agencement de mes cases, toutes ces idées étaient les bienvenues qu'on en discute.
Quelle émotion ressentiez-vous quand les pages arrivent ?
Enfin, c'est des grands moments. C'est des grands moments. Tout d'un coup, cette histoire, elle s'incarne une deuxième fois. Et j'ai envie de dire, peut-être que le regard de Francesca, au fur et à mesure, m'aidait à prendre justement ce fameux recul à la recherche duquel j'étais partie. Et puis j'étais chaque fois, enfin, je suis admirative de la justesse des émotions, des visages, des expressions que Francesca a réussi à rendre. Et pour moi, c'était le plus important. Et là, vraiment, j'ai été comblée. Par le dessin de Francesca.
Alors, Kitry Simon, vous apparaissez sous les traits de Marion. Ce n'est pas vous qui vous dessinez, contrairement à beaucoup d'auteurs de romans graphiques, autobiographiques. Comment ça se fait? Que ressentez-vous en vous voyant dessiner?
Ça, c'est vrai que c'est une impression étrange. Là, pour le coup, je ne suis pas sûre de me ressembler. Et c'est tant mieux, ça participe à cette prise de recul. Voilà. Parfois, je dis à Francesca, mais je voudrais être plus souvent en robe, peut-être dans une posture moins sportive, moins parfois, je me faisais parfois penser à ce bonhomme de Manpower, en fait, vous savez, très, très sculptural, très musclé, et j'avais l'impression que mon personnage devait être plus fluide, peut-être que ça voulait dire aussi quelque chose de ses doutes, de sa quête, mais aussi le personnage évolue au fil de l'histoire, et voilà, mais je crois que c'est à la fois ressemblant et à la fois pas ressemblant, et ça me va très bien.
Et la couleur, Kitry Simon, quel rapport avez-vous avec la couleur?
Là aussi, il y a eu beaucoup d'évolutions au fil de l'album. 2 ans et demi, c'est pas rien. Francesca a fait son propre chemin pendant tout ce temps-là. Et moi, j'aime beaucoup ces couleurs chaudes, ces couleurs chatoyantes, ces couleurs qui réchauffent. Et voilà, et je l'ai encouragé, et Sébastien aussi, à avoir une couleur de plus en plus fraîche, de plus en plus gaie, parce que cette histoire, elle porte son lot de difficultés, de lourdeur, parfois de drame, et on avait vraiment envie de compenser avec de la gaieté, de la fraîcheur, et ça, Francesca a eu besoin de l'apprivoiser petit à petit.
Pardon, excusez-moi. Alors, il y a dans le livre très peu de dessins sur ce qu'est une traversée. Bien sûr, on a énormément d'images, mais c'est un parti pris de vraiment minimiser ces représentations-là.
Oui. Oui, d'abord parce que je crois qu'il y a beaucoup de choses qui ont été faites là-dessus. Je crois aussi que notre regard sur les personnes en situation d'exil est très focus sur le voyage, qu'est-ce qu'ils ont traversé, leur niveau de traumatisme. Alors, à la fois, je dis qu'il faut le prendre en compte pour comprendre peut-être ce qui se passe dans nos interactions avec ces personnes, mais c'est pas ça que j'avais envie de raconter, et j'avais envie de décentrer ce regard. Et ce que j'avais vraiment envie de raconter, c'est la relation entre deux femmes.
Qu'est-ce que va permettre ce que je sais de Rokia pour les livres à venir, aussi bien jeunesse que peut-être d'autres romans graphiques?
Ah, est-ce que ça va permettre,
comment ça ouvre l'horizon, dit autrement?
Ah oui. Mais je crois que j'ai découvert grâce à ce projet, donc grâce à cette aventure et grâce à Rokia, l'univers de la bande dessinée, le plaisir très peut-être beaucoup plus artisanal que, enfin c'est comme ça que je le vis, que plus artisanal que le roman, et plus cadrant, et je crois que j'ai besoin de ce cadre, parce que la bande dessinée oblige à choisir beaucoup aussi ce qu'on ne racontera pas, et à se cadrer dans un nombre de pages relativement précis, et dans une composition de planches, donc ça m'a fait découvrir tout ça, et j'apprécie beaucoup ce travail, et je crois qu'on rentre un peu en bande dessinée, là, un peu comme en religion. Je ne sais pas ce que je serai dans 5 ans, 10 ans, 15 ans, mais pour l'instant, je suis très attachée à ce média et j'ai surtout envie de travailler essentiellement par ce biais-là.
Il y a déjà des projets en cours ?
Oui, il y a déjà des projets en cours, tant en jeunesse finalement que j'allais dire qu'en adulte, ça c'est ma petite voix d'autrice jeunesse qui me fait dire ça. Mais oui, il y a des projets en cours et avec beaucoup de joie.
Et par rapport à l'écriture jeunesse, vous avez une œuvre jeunesse importante avec un titre qui m'avait accroché, Je ne veux pas lire. Qu'est-ce que ça peut changer dans l'écriture jeunesse, un tel livre ? Ce rapport au personnage, ce rapport à l'intimité ?
Alors, je crois que l'écriture jeunesse m'a peut-être aidée, là j'ai envie de dire pour les premiers lecteurs, parce que c'est souvent des formats pareils, très concis, où il faut très vite caractériser le personnage et que les dialogues soient qu'il n'y ait pas de fioritures. Donc je pense qu'en ça m'a aidée. Et ensuite, pareil, la bande dessinée va contribuer à cet apprentissage. Et ça, je trouve que ça se nourrit bien. Ça se nourrit bien et ça se complète bien. C'est deux chemins. En jeunesse, sous forme de petits romans et adultes. Et bande dessinée.
Une question sur le titre. À quel moment avez-vous trouvé ce titre ? Parce que je trouve qu'il est très efficace, très parlant, très fort.
Alors là, merci. Je me suis mis en tête que je n'étais pas forcément très douée en titre. Et en titre provisoire, j'avais extrait une des phrases que prononce Rokia quand elle est dans la forêt et qu'elle dit « c'est le début de tout ». Et le début de tout, j'avais beaucoup aimé cette phrase et je l'avais nommée comme ça, cette bande dessinée, quasiment jusqu'au bout, jusqu'à ce que le travail soit terminé et que Sébastien vienne frapper à ma porte en me disant « Ouh là là, maintenant il va falloir que c'est le temps de trouver un titre et un titre qui soit plus parlant ». Et une des propositions, c'était Rokia, mais en fait, ça éludait le fait qu'on parlait d'un duo de femmes et d'une relation. Et donc, c'est ainsi qu'est venue l'idée de « Ce que je sais de Rokia », ce qui permettait de remettre en jeu Marion et la relation entre les deux.
Merci beaucoup, Kitri Simon. Je vais rappeler les références de votre livre, donc Ce que je sais de Rokia, qui est mis en image par Francesca Vartuli. C'est publié par les éditions Futuropolis, on l'a évoqué. Les 176 pages de ce livre sont au prix de 23 euros et il a été imprimé en France. Merci beaucoup et très très bonne continuation. Au revoir.
Merci Bruno.
Merci.
Au revoir.
c'était le troisième choix de Kitry Simon, Geoffrey Oreyoma. Jeudi prochain, ben, ça sera le 21, il y aura donc Matt Conture et Rico qui seront en studio, peut-être, Mordicus sera avec eux, et en tout cas, ça sera le jour de leur vernissage. Merci Fabien pour cette technique. Eh bien, à la semaine prochaine et bon après-midi sur les ondes de Radio Escapade. Écriture dessinée.